Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et
Fulgence Blain.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui une belle émission, deux invités. Alors je vais parler de suite de la deuxième demi-heure.
Oui, moi en première partie de l'émission,
oui,
on a un invité qui va nous parler de psychologie cognitive. Comment s'amuser avec le cerveau? Ouais, comment s'amuser avec le cerveau? Ouais, ouais.
Très heureuse de jouer avec lui. On va voir ça ensemble. Dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir Jean-Michel Bouchard du quatuor de saxophone Quasar et qui a été l'idéateur, j'aime le mot, je le trouve joli, d'un spectacle qui s'appelle « Je ne suis pas un robot ». C'est un techno-opéra, ballet, tragicomique et expérimental. Donc un événement avec les saxophones Quasar et Jérôme Minière. On va en savoir un petit peu plus à partir de 17h30, alors restez avec nous. On part en musique.
Là, on part en musique tout de suite avec une jeune dame, Chacha, qui va nous chanter, qui va nous faire bouger un peu avec
Chacha,
son titre. Oui, oui, S-H-A-S-H-A. Chacha avec le titre « Rose ». Chachaouza. Voilà, ça c'est du spécial. J'aime bien son style de musique d'ailleurs.
C'est vrai. Voilà.
Arlette, là, on a déjà notre invité au bout du fil.
Super.
Voilà, monsieur Gilles Bergeron, le spécialiste en psychologie cognitive, qui va nous parler un peu,
bonjour.
Qui va nous présenter, qui va nous parler un peu. Bonjour d'abord, j'ai déjà entendu parler de vous.
Qui va nous faire jouer aussi peut-être.
Oui. Il va nous parler de l'importance de s'amuser pour stimuler notre cerveau. Alors, bonjour Gilles, comment allez-vous?
Bonjour, oui. Ouais, ça va très bien, vous-même?
On va bien ici en studio, vous êtes avec nous même si c'est à travers le téléphone, on vous voit. Alors, vous êtes spécialiste de psychologie cognitive. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce que c'est que la psychologie cognitive pour
oui,
les auditeurs?
Oui, d'abord, ce que ça mange, oui.
Oui.
C'est cette partie de la psychologie qui
oui.
s'intéresse aux phénomènes, aux processus mentaux.
Oui.
Donc, on s'interroge sur comment les choses peuvent se passer dans l'esprit des gens. J'ose pas dire dans le cerveau parce que l'intérêt est pas vraiment au plan anatomique. Vous voyez,
oui.
c'est plus comment les gens, comment on apprend, comment on mémorise, comment on résout des problèmes, etc. Et en particulier, comment on apprend de nouvelles, comment on acquiert de nouvelles connaissances, comment on intègre de nouvelles connaissances.
Oui.
Ça a un intérêt fondamental,
oui.
d'abord pour comprendre les choses, et ça a un intérêt d'application pour ce qui est de pour nous aider à présenter les contenus à des plans sur un plan pédagogique. Donc, comment, par exemple, présenter des contenus, comment organiser des contenus, des contenus pédagogiques dans un logiciel éducatif, par exemple,
oui.
ou dans un jeu, pour aider les enfants ou les adultes ou des animaux, à la rigueur, à acquérir de nouvelles connaissances, pour apprendre de nouvelles choses.
De nouvelles choses, oui. Alors, cette année 2020, vous nous avez sorti deux livres. Deux
oui.
livres.
Vous avez eu le temps avec le confinement?
Ah oui, en effet, oui.
Deux livres, ouais, le confinement a permis à beaucoup de gens de faire beaucoup de choses d'ailleurs.
Ouais,
deux livres
ouais.
de jeux pour stimuler le cerveau et faire travailler notre mémoire. Le premier mm-hmm. qui était sorti en février 2020 d'ailleurs, sous le titre de Cerveau actif, le grand livre qui a été vendu à 40 000 exemplaires en 6 mois.
Bravo.
Eh oui. Eh ouais, oui.
Je vous dis bravo et félicitations. Et le deuxième est sorti
merci.
Tout de suite en septembre, dans la même année.
Ouais, ouais.
S'intitule Cerveau actif. Ça, c'est spécial Québec avec des expressions québécoises.
Ouais,
parlez-nous d'abord du grand livre.
Oui. Ben, écoutez, le grand livre, c'est. Bon, je dois vous dire qu'en parallèle avec ma carrière en psychologie cognitive,
oui.
J'ai aussi, une carrière parallèle qui est de jouer et de créer des jeux. De tout temps, j'ai été intéressé à jouer, à créer des jeux, et en particulier bon, des jeux éducatifs, bien sûr, puisque ça fait
oui.
partie de mes préoccupations.
Gilles, est-ce que vous jouez depuis, oui. Depuis la tendre enfance, depuis tout petit?
Ah oui, et sans arrêt, et encore maintenant, j'ai 66 ans. J'ai pas
wow.
arrêté. Oui, oui. Et je me suis intéressé à toutes sortes, à toutes les catégories, à toutes les catégories de jeux. Et ça m'a amené à concevoir et à développer moi-même des jeux, donc éducatifs, d'une part, pour des personnes de tous les âges, du public de tous les âges, mais aussi des jeux des jeux remue-ménage. Question de s'amuser, question de se distraire, en particulier pour les gens de ma famille, par exemple. Des jeux qui font que ça devient plus amusant d'apprendre aussi.
Oui.
Mais en même temps, des jeux de toutes sortes. En partie des quiz, mais surtout des, comme je disais, des jeux pédagogiques, des jeux qui vont faire en sorte que ça va nous faire travailler un peu le cerveau. Pas pour nous faire travailler, mais plutôt pour nous amuser en travaillant.
Oui.
Disons que c'est plutôt ça.
Ouais.
C'est toujours plus facile d'apprendre avec le rire. Hein?
Exact, oui. C'est toujours, ben oui, quand on a du plaisir à faire quelque
ben
chose,
oui,
ça nous motive à le faire. Et comme c'est difficile d'apprendre, Plus on est motivé, plus on a oui. d'intérêt, plus on a de plaisir à le faire, ben plus on va le faire volontiers.
Oui, oui.
Donc, en parallèle avec ma carrière en psychologie, oui. j'ai développé des jeux et ça a donné lieu effectivement à des produits éducatifs pour les jeunes enfants. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai pas pu m'empêcher de continuer à faire des jeux. Et les principales applications que ça a données, c'est plutôt pour des personnes adultes et en particulier pour les personnes qui s'inquiètent ou qui se préoccupent de la santé du cerveau et qui, de leur cerveau, de leur mémoire, par exemple.
Ah oui.
Et qui disent, j'aimerais ça avoir des exercices.
Est-ce qu'on peut parler de perte de mémoire? Est-ce qu'on peut parler de perte de mémoire?
Ben oui, c'est sûr qu'avec le temps, on perd de la mémoire, on perd des éléments de mémoire, mais c'est pas tellement, c'est pas inquiétant, c'est pas la partie inquiétante de la chose. Ce qui est plus inquiétant, c'est de perdre des facultés d'apprentissage. C'est pas tellement de ne plus savoir jouer aux 5 ans, c'est de ne plus avoir le goût d'apprendre un nouveau jeu, par exemple.
Okay.
Oui, donc c'est là que c'est plus inquiétant. C'est sûr qu'avec l'âge, on s'inquiète, par exemple, des arrivées de maladies dégénératives. Il y a le mot Alzheimer, évidemment, qui flotte toujours quand t'arrives à un certain âge. Mais vous voyez.
J'ai préféré vous laisser le dire. Hein?
Ouais, mais c'est toujours inquiétant, effectivement. Puis ça fait partie des questions qu'on nous pose régulièrement. Mm. Et je vais faire image là-dessus. On craint de perdre la mémoire parce qu'on a oublié où on a laissé ses clés, ou bien on oublie les noms des personnes qu'on rencontre, ou bien où est-ce que j'ai mis mon foulard là-bas. Ben, perdre, ne plus savoir où on a mis son foulard, c'est une chose, c'est une information qu'on n'a pas retenue, et probablement parce qu'on n'a pas fait attention à où on l'a mis dans la foulard. Mais si on ne sait plus à quoi faire un foulard, et on a perdu quelque chose de beaucoup plus important.
Oui.
Ou alors, si on ne tient pas compte qu'en hiver, il faut mettre un foulard, c'est là qu'arrivent les problèmes. Et là, on parle de maladies dégénératives.
C'est ça,
mais
c'est
donc,
ça.
Oublier ouais. où on a mis ses clés, son foulard, etc., c'est banal.
C'est banal, ça. Tout le monde le... Ouais. Voilà, moi, quelquefois, ouais. je mets clés en main et puis je les cherche. Ça voilà. m'est déjà arrivé. Oui, oui, je les ai en main et puis je les cherche. Ça m'est déjà arrivé.
Oui, c'est
alors
oui.
Gilles, on va faire une petite pause musicale.
Oui.
Et puis on va continuer avec la suite. Là, on va préparer bien la réponse. En quoi diffèrent vos livres des mots croisés, des sudoku, les machins et autres? Parce que j'ai l'impression que... On va en musique et puis on revient et puis on attend votre réponse.
Excellent.
Merci.
100 voltios de pura diversión.
Oh,
J.C. Johnson, 100 watts of funky. Voilà. Voilà, on retrouve notre invité qui est toujours avec nous, Gilles Bergeron, spécialiste de psychologie cognitive.
On en a profité pour faire bouger notre cerveau.
Voilà. Musicalement parlant. Voilà. Alors, on y va avec la question que j'avais posée avant la pièce musicale. Bon, ouais, d'abord, quelle est la différence? Qu'est-ce qui diffère de des livres de mots, là, que des mots croisés, sudoku, je ne sais quoi d'autre encore?
La principale différence, c'est tient à la variété des jeux.
Oui.
Dans un livre de mots croisés, on va faire en général que des mots croisés ou que des sudoku. Dans un livre de sudoku, avec un peu de chance, vous trouverez des livres dans lesquels il y aura 3, 4, 6 modèles de jeux différents. Dans les livres de cerveau actif, on trouve une très grande variété.
Oui.
Par exemple, dans le grand livre, il y a 285 jeux.
Oui.
Au total. Et il n'y a aucun type de jeu, des jeux de lettres ou de logique ou de vocabulaire ou d'observation qui serait répété, le même type qui serait répété plus que 4 ou 5 ou 8 fois, par exemple. Donc, il y a une très grande variété.
C'est une brique, hein, il fait 319 pages.
Ah, c'est une brique, oui.
C'est une brique.
Oui, c'est une brique. Et donc, la principale différence tient à la variété des jeux. Et c'est pas pour rien, parce que, mon Dieu, si on veut entretenir son cerveau, c'est sûr que c'est intéressant de faire des mots croisés, des sudoku ou le même genre d'exercice sans arrêt, mais la principale fonction du cerveau, c'est d'apprendre. Alors, à faire toujours les mêmes opérations, on sollicite les mêmes fonctions du cerveau. Alors, il n'y a rien comme la variété des jeux pour le stimuler.
Oui.
Alors, c'est le principal avantage, je vous dirais, de ces livres.
Cerveau actif.
Cerveau actif, oui. Donc, c'est une collection qu'on a lancée qui était au départ un ensemble de jeux remue-ménage qui avait été fait au départ bon pour ma famille, mais ensuite pour des ateliers de stimulation cognitive qu'on a rassemblés maintenant sous cette collection-là.
Est-ce que vous êtes attendu à ce succès-là avec le grand livre?
Ah, mon Dieu, pas du tout. on s'attendait à une certaine diffusion, surtout auprès des personnes, disons, de 50 ans et plus, des personnes qui ont du temps à consacrer au jeu qui en plus se préoccupent de la santé de leur cerveau, si vous voulez.
Oui.
Mais en fait, on est bien surpris du succès jusqu'à maintenant.
Oui.
Et on compte là-dessus pour continuer. On est à préparer de nouveaux livres. Vous voulez des exemples?
Oui.
De jeux?
Oui. Ouais, je m'apprête à vous demander d'ailleurs.
Ah, d'accord. Il y a des jeux de toutes sortes, des jeux d'observation, des jeux de vocabulaire, des jeux qui portent sur l'attention, sur la mémoire, sur la logique, ainsi de suite. Alors, un exemple. Souvent, les jeux sont utilisés pour illustrer des phénomènes qui sont peu connus de la psychologie cognitive. Par exemple, le fait qu'on porte pas beaucoup attention, on porte pas suffisamment attention à l'énoncé d'un problème ou à ce qu'on fait. Donc, l'exemple que je donnais sur le foulard, ben, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème d'attention. Alors, voici un exemple de question. Complétez la phrase suivante. La mère de mon ami Paul a 3 enfants. Il s'appelle Cric, Crac et...
Vous attendez une réponse de notre part?
Oui, oui.
D'accord.
Et Cric, Crac.
Non, c'est la mère
Cric,
de Paul.
Cric, Crac et Croc?
Parce c'est que la ça mère va... de mon ami Paul. Si elle a 3 enfants, dont Paul.
Oui. Ah oui, Paul, ben c'est Paul, bien sûr.
Ben oui, ben voilà.
Ah, c'est Paul, ok.
Voilà.
Vous voyez que j'aurais bien besoin de jouer dans votre livre, moi.
Non, mais c'est le cas de tout le monde. Et pourquoi on tombe facilement dans ce genre de panneau-là?
Oui.
C'est qu'on demande au cerveau de faire beaucoup d'opérations très rapidement. Alors, il n'y a pas le choix que de prendre des raccourcis.
Oui.
Et
oui.
On peut donc aller le piéger dans ces raccourcis.
Mais il y a aussi le fait de pouvoir... Pardon, je m'excuse.
Oui, vas-y.
Il y a aussi le fait de pouvoir... Quand on le lit, quand on le voit écrit, et puis quand on le parle, il y a aussi des gens qui sont plus
auditifs.
Auditifs, par
oreille,
tonalité.
Oui, oui, oui. Un autre, voici un autre exemple de jeu, là, mais c'est complètement dans un ordre.
Je vais revenir rapidement pour que nous déblonnions certains mythes là rapidement. Pardon, on n'utilise que les 10% de notre cerveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que faux?
Voilà. Oui, d'accord. Alors, je termine rapidement avec un autre exemple, d'accord?
Oui.
On a, par exemple, des jeux qui portent sur le double sens des mots ou sur les sons des mots. Mmh. Par exemple, dans « Je suis très ému », ben on entend 13, le chiffre 13, « Je suis très ému ». Dans « Je mange des saucisses », on entend le 6. Dans « Quel nombre entend-on » dans « Vincent apporte du 109 dans l'équipe ».
Oui, 9.
Ah ouais, 9, oui.
9 et même 109.
20.
Oui,
Vincent,
alors voilà.
Oui. 20,
100 et 9.
120, 109, évidemment. Ouais. Alors, c'est un exemple bien simple qui montre comment on peut combiner deux modalités différentes, le son, les chiffres, les mots. Donc, je mets à profit ce qu'on connaît de la psychologie cognitive pour mettre en branle les fonctions du cerveau. Permettez, donc, je reviens à votre question sur
les mythes.
Chose qui caractérise les livres par rapport à d'autres livres semblables, c'est que j'ai tenu à mettre dans ces livres des capsules d'informations sur les différentes fonctions du cerveau et sur les phénomènes qu'on connaît. Et sur des mythes, jusqu'à la question de défaire certains mythes, des questions qui nous sont posées constamment sur est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 10% de son cerveau? Qu'est-ce que c'est que perdre la mémoire? Est-ce que le quotient intellectuel puis l'intelligence, c'est la même chose? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un cerveau? Les personnes plus créatives utilisent leur cerveau droit, puis les personnes logiques utilisent plutôt leur cerveau gauche. Alors, je ne vais pas vous donner de réponse à ça.
Non, dit tout de
façon. Regardez dans les... Ça fait partie des capsules d'information donc qui ponctuent le livre.
On va tout doucement vers la fin de la conversation de l'entrevue. Est-ce qu'on trouve facilement vos livres et puis à quel prix? Tu aurais une autre question?
Non, c'était tout à l'heure, j'avais juste une petite question. C'était tout à l'heure, vous avez parlé d'ateliers. Vous faites des ateliers?
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, nous faisons des ateliers. C'est un programme. Écoutez, je vous réfère au site, site internet Cerveau Actif, au pluriel, cerveauactif.com, où vous trouverez toutes les informations.
Toutes les infos sur les ateliers sont là-bas.
Sur les ateliers, le programme Cerveau Actif, les livres, où on les trouve, à quel prix.
À quel prix, tout ça.
Oui. Donc, je pourrais vous donner les informations que j'ai, mais
on va les regarder maintenant qu'on a le site.
Est-ce qu'on s'attend déjà un troisième de votre part d'ici début 2021?
Au tout début.
Là, vous n'arrêtez pas, Gilles.
Non, j'arrête pas. Et il y en aura au moins un autre encore au cours de 2021.
C'est pas vrai. Ça fait du bien la retraite.
Vous êtes un créatif.
Merci beaucoup, Gilles Bergeron, docteur en psychologie cognitive, spécialiste.
Ça m'a fait grand plaisir.
Oui, et puis on va recommander. J'ai les deux copies en face de moi ici en studio. Parce que là, le grand livre, c'est une brique, comme j'ai 319 pages. Et puis le spécial Québec, deux mots rapidement là-dessus, sur le spécial Québec. 142 jeux stimulants.
Oui.
Ça, c'est pas un brique, c'est moins que 319, c'est à peu près 167 pages.
Exact. Il est moins volumineux. L'idée, c'est que quand on a prévu le premier, le grand livre, ça contenait aussi, j'y avais inclus aussi des jeux avec des contenus plutôt québécois.
Oui.
Sur des expressions québécoises, du vocabulaire québécois.
Merci beaucoup.
Parce que ça faisait partie des choses qu'on fait dans les ateliers.
Merci.
Donc, le contenu est plus québécois, mais du même style.
On ira voir ça, en tout cas. Merci beaucoup, Gilles,
parce que
c'était très intéressant.
Je vous en prie.
Au plaisir de vous réécouter.
Merci à vous.
Bonne soirée à vous. Bye-bye.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors avant de parler avec Jean-Michel Bouchard de son techno-opéra-ballet tragicomique et expérimental, on va partir en musique d'abord avec Jérôme Minière. Jérôme Minière qui nous chante un magasin qui n'existe pas.
Les aboiements d'un chien résonnent au loin. Je rentre chez moi. D'un bon pas dans un magasin qui n'existe pas. J'ai acheté du silence, des instants calmes et paisibles dans un magasin qui n'existe pas. Et ça ne coûte rien. Sur le bord de la route, des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Nous, les humains, devenus sédentaires par inadvertance, parce que nous ne savions plus voler, si ce n'est dans la caisse parfois. Je rentre chez moi.
Jérôme Minière et Lassa dans un magasin qui n'existe pas. Jean-Marc Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Comment ça va?
Bonjour. Moi, ça va très, très, très bien, très bien. Ça m'a mis dans l'esprit d'entendre cette belle chanson avec l'instrumentation originale.
C'est ça, c'était pour pouvoir parler du reste après. Donc, alors, on en parle un peu de cette... Alors d'abord, c'est présenté en coproduction, c'est ça?
Absolument.
Avec Le Vivier, les productions Totem Contemporain et les Escales Improbables de Montréal aussi. Le concert événementiel Je ne suis pas un robot. Alors, parle-nous un peu de Je ne suis pas un robot.
Ben, d'abord, Je ne suis pas un robot. Et c'est un projet qui a c'est un projet qu'on a commencé. En fait, j'ai eu l'idée de ce projet-là en 2018. J'ai travaillé avec Jérôme Minière pour une première fois dans un projet complètement loufoque qui s'appelait l'épicerie musicale.
Oui, on l'avait reçu ici pour ça.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, fort de cette expérience-là, on s'est découvert des atomes crochus et j'ai proposé à Jérôme et aux Escales Improbables, ainsi qu'à notre directrice artistique, Marie-Chantal, du Quasar, de faire ce projet-là que j'imaginais comme un collectif où est-ce que tout le monde mettrait du sien. Puis, c'était pas déterminé d'avance le programme, il fallait le construire ensemble. Donc, on a eu une relation assez soutenu pendant ces deux années-là. Et puis, ben là, c'est formidable parce qu'on l'a fait en 2019 une première fois. C'était un banc d'essai, disons. Et puis, ben, c'était une très, très belle expérience. Mais c'était une première expérience. Puis là, cette fois-ci, on a décidé d'aller beaucoup plus loin avec une mise en scène, avec l'éclairage, la scénographie. On a aussi, depuis le temps, deux ans, on a eu le temps de raffiner les choses. Je pense jusqu'au bout, là, oui.
Alors déjà, Jean-Marc, bon, bah, on part de la chanson de Jérôme Minière en rajoutant plein de choses. Donc on va écouter un morceau tout à l'heure parce qu'il y en a pour 9 minutes. Je ne passerai pas les 9 minutes, mais on va entendre les 3 premières en tout cas pour avoir une idée déjà un petit peu. Et puis moi, ce qui m'a fait sourire puis qui m'a mis aussi en joie, c'est les instruments inventés à base de compresseurs et de ventilateurs. Ça, déjà, ça, j'ai ouvert des grands yeux. Je dis, qu'est-ce que c'est?
Mais ça, c'est notre vieil ami Jean-François Laporte.
Oui.
Qui depuis toujours, invente des instruments. Et puis, c'est un vieil ami de Quasar. Ça fait 20 ans qu'on fait des projets ensemble. Oui. Donc, Jean-François, il invente toutes sortes d'instruments. Puis, je dirais que la chose qui est commune dans tous ces instruments, c'est que c'est Jean-François, c'est son style de composition. Donc, ça fait longtemps qu'on manipule ces instruments-là, puis on est rendu, on a beaucoup de plaisir. On joue sur une grande table qui est un grand panneau, un ancien panneau de construction, et puis il y a des sortes de petits ventilateurs collés là-dessus. Il y a beaucoup d'électronique qui viennent en dessous de la table. C'est assez magique parce que c'est beau, c'est très joli à voir. Et puis, ben, on suit notre partition, nous quatre, on a comme deux ou trois instruments chacun, et puis à base de ventilateur. Donc, on joue véritablement du ventilateur. Et puis, c'est très...
Comment
c'est
on joue du ventilateur, Jean-Marc? Il va falloir que tu me montres un jour.
Le pire, là, c'est qu'il faut pratiquer le ventilateur pour jouer comme il
faut. Parce que je lisais dessus, enfin le message de Marie Chantal aussi, qui oui. écrivait bah, « La tête dans nos machines du matin au soir, nous ne sommes pas des robots, nous jouons, créons, chantons et vivons. La rencontre improbable et inévitable de nos univers pop, électroniques, poétiques et expérimentaux fait des flamèches. Rejoignez-nous-y. » Voilà. Donc ben, déjà, ça donne...
Ça décrit bien.
Ça décrit bien et ça donne envie. Donc dans cette partie-là, parce que ce qui est fait à la base de la chanson avec Jérôme Minière, c'est intégré dans « Je ne suis pas un robot », c'est ça?
C'est-à-dire que moi, j'ai fait un arrangement sur la chanson de Jérôme. Donc, oui. Il chante avec nous, il chante sa chanson, mais sauf que c'est accompagné par 4 saxophones au lieu de son orchestre habituel.
On va en entendre un bout tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Et puis toute la longue partie du milieu, c'est une composition, mais vraiment basée sur les rythmiques, entre autres, de la chanson et puis les mélodies que je me suis permis de transformer. Et puis là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu dans votre communiqué, mais il y a un projet fantastique de
ben oui, j'ai vu. Des étudiants?
Oui, les étudiants, ils sont d'une cinquantaine qui viennent d'un peu partout, puis on va les voir à l'écran, là, parce qu'on a reçu la vidéo. Là,
Alors, il faut d'abord expliquer ce que c'est, parce qu'on va y revenir après, mais il y a 50 étudiants à travers le monde,
oui.
à qui il a été demandé de créer sur cette chanson, de participer à l'enregistrement dans un magasin qui n'existe pas.
Oui.
Et puis, il y a eu plus de 200 enregistrements audio et vidéo.
Non, il y en a eu plus de 400. Je vous ai
plus
pas
de 400?
Dire, oui, parce que notre monteur vidéo, il l'a trouvé bien bonne d'ailleurs.
ouais. Comment on fait pour rassembler plus de 400 enregistrements audio et vidéo pour faire une grande version numérique? Je ne suis pas du tout apte à ça.
Moi, j'ai appelé un jeune homme qui s'appelle Marc-Antoine Doyon, qui est spécialisé là-dedans. Donc, on a fait un peu notre requête, mais même lui, on l'a laissé quand même assez libre parce qu'il connaît ça mieux que nous, ces arrangements vidéo-là. Nous, on voulait que tout le monde apparaisse, qu'il y ait une certaine progression, parce que la musique est construite de sorte que c'est fait pour, disons, faire une histoire simple, c'est fait pour 50 saxophonistes. Nous, on est 4. Toutes les autres voix vont être bon, plus ou moins jouées par des personnes qui les auront préenregistrées de leur pays, bien sûr. On a tout ramassé ça ensemble, puis le soir du concert, on joue vraiment, ça va sonner comme un grand orchestre de saxophone.
C'est par où tous ces étudiants? Je veux dire, ça touche tout le monde ou une partie ou comment?
Ceux qui ont répondu, c'est beaucoup des étudiants d'université. Parce que nous, avec Quasar, on a fait pas mal de tournées hein, quand même. Puis avec les tournées qu'on fait, partout où est-ce qu'on arrête, normalement, on va dans les universités. après ou avant le concert, puis on va donner un cours de maître. On travaille avec les étudiants en composition et en saxophone. Et puis, c'est tous ces gens-là qu'on a communiqué, avec lesquels on a communiqué, puis il y en a beaucoup qui ont embarqué avec empressement. Mais il y en a de tous les niveaux, hein. Il y a des petites de l'école secondaire, parce que il y a nos amis qui enseignent à l'école secondaire.
Ah oui?
Oui, il y a des gens. Ça va de secondaire 2 ou secondaire 1 même, jusqu'à des étudiants en doctorat. Puis il y a des gens du grand public, un monsieur qui s'est intéressé au saxophone, il a vu notre annonce passer sur Facebook. Et puis ça fait une belle rencontre de tout plein de monde différent.
Alors attends, tu veux dire que tous ceux qui s'intéressent au saxophone avaient la possibilité de se joindre à tout le monde et puis d'envoyer ce qu'ils y ont fait.
Exactement, il y avait une procédure à suivre, c'était tout expliqué en allant sur notre site web. Ils pouvaient faire les étapes l'une après l'autre et puis nous appeler au besoin pour avoir un peu d'aide. Mais on voulait ça ouvert parce que c'est comme un grand moment de joie, là, cette affaire-là. Parce que j'ai pas besoin de vous dire que ce temps-ci, on voyage pas beaucoup. Là,
nous. Oui.
Mais
ben oui.
On avait quand même besoin d'être avec notre monde. Et puis, c'est un peu l'idée, je pense, que Marie-Chantal avait derrière la tête. dans la tête, parce que c'est elle qui a mené le projet vraiment...
Eh bien, voilà, salut. Et tu sais quoi, pour l'instant, on va écouter le début du morceau qu'on nous a envoyé, d'accord?
C'est la même chanson, je pense, hein?
Oui, c'est la même chanson. C'est pour ça qu'on l'a mis en début comme ça. Puis après, on va écouter ce qui est fait dessus, mais pendant 3 minutes, 3 minutes et demie. Donc, ça ne va pas donner la totalité du morceau qui m'a été envoyé, que j'ai écouté. Mais ça va donner une petite idée déjà. Et on se retrouve tout de suite après ça.
Merci beaucoup.
À tout de suite.
À tout de suite.
La route encore humide, les orages sont passés, les aboiements d'un chien résonnent au loin. Je rentre chez moi d'un bon pas dans un magasin qui n'existe pas. J'ai acheté du silence, des instants calmes et paisibles dans un magasin qui n'existe pas. Et ça ne coûte rien sur le bord de la route, des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Nous les humains devenus sédentaires par inadvertance, parce que nous ne savions plus voler, si ce n'est dans la caisse, parfois. Je rentre chez moi d'un bon pas, mais je pourrais aller n'importe où, n'importe où.
Jean-Marc Bouchard, tu es toujours avec nous?
Absolument, oui.
Alors oui, on n'en entend qu'une partie, hein, parce qu'il faut terminer la conversation, mais c'est très intéressant, en tout cas, ce qui a été fait là-dessus. Moi, j'ai écouté tout le morceau en plein. Et on parlait du Jésus, on parlait du 12 décembre, mais de toute façon, là, il va pouvoir être qu'en webdiffusion.
Oui, une diffusion en direct à 20h.
Et puis en différé aussi.
Oui, ben en différé. En fait, là, moi, je sais qu'on travaille là-dessus présentement. Là, la dernière nouvelle qu'on attendait, c'est de quelle manière on va en différer ça, parce qu'on a beaucoup d'amis en Europe aussi. On a fait des tournées aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de le faire en différé, parce que pour l'instant, ça devrait être une version live uniquement pour les gens ici. Ça sera vraiment samedi à 20h. Et peut-être c'est sûr qu'il va rester un document de ça parce qu'on a une grande équipe pour filmer tout ça, là, mais c'est un produit qui va revenir plus tard sur les.
Alors, c'est le dommage, c'est aussi comme pour tout le monde, hein, c'est que le Jésus a l'habitude de vous recevoir tous. Et oui, de faire. C'est une belle salle, mais fermée. Voilà. Donc,
comme tous les autres, on est en train. Le pire, c'est qu'on est quasiment en train de se faire tranquillement depuis le temps. Ça fait, on se fait une raison. Et on trouve le moyen d'être quand même de s'impliquer et de développer des projets intéressants. Voilà, bon, ça, c'est sûr que la situation n'est pas idéale dans ce sens-là. Mais vaut mieux écouter un spectacle en direct, je pense, que pas en écouter du tout.
ça c'est certain. Mais ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas dû être facile de monter quelque chose d'aussi important et intense, parce qu'il y a quand même une histoire suivie là-dedans. Comment, pendant le temps où on ne peut pas se voir, comment on fait? On travaille par... par visio ou conférence, on fait des...
Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle nos réunions production. Ça s'est fait par vidéoconférence. Pour la pratique, pour ce qui est du Quatuor, nous, on a un studio professionnel dans lequel on peut jouer quand même depuis le mois de juin, parce qu'on a la distance nécessaire. Puis on a la chance d'avoir quand même un local assez fantastique et assez grand pour accueillir au moins une vingtaine de personnes. On n'a jamais été plus que 6-7 personnes, 8 personnes à la fois. Mais on est capable de travailler dans les règles de distanciation. C'est très bien aéré. Donc, de ce côté-là, ça ne fait pas une immense différence pour nous. La différence, c'est que le soir, la salle, au lieu d'avoir un public avec nous, d'avoir un public avec nous, on va avoir des caméras, puis on va on a pris un autre angle, on travaille d'une autre façon, on essaye de tirer profit de ça, puis d'en faire une expérience quasi cinématographique.
Ben
on
oui.
a un metteur en scène, Maxime Genois, qui est plus jeune que nous, il sort de l'école, ça fait pas tellement d'années. Et puis il arrive avec une vision très rafraîchissante, mais du milieu du théâtre, il nous amène ailleurs. Vraiment, c'est une contribution très intéressante avec la scénarisation de Jérôme et de Marie-Pierre Normand, sa conjointe et sa comparse de toujours.
Mais
alors,
c'est bien.
Oui, c'est ça. On tire profit quand même de cette expérience-là.
Là, est-ce que le spectacle, le concert a déjà été enregistré?
Non. Non.
D'accord.
Donc ça c'est parce qu'en fait, on passe 4 jours au Jésus. Là, il y a des kits de caméras. Là, l'équipe technique est là. On est quand même comme une quinzaine de personnes qui gravitent autour de nous pendant la période au Jésus dans cette salle-là. Et à la fin de tout ça, on va avoir vraiment du matériel pour en faire vraiment un objet cinématographique éventuellement. C'est le but. Mais ça, c'est pour ça tantôt que je vous disais, ça va être live samedi, mais après, on va aller en post-production et tout ça.
Oui.
Donc, dans 3, 4, 5, 6 mois, on va sortir ce qui serait le concert live, mais version vraiment plus cinématographique, comme on dirait.
Eh bien, écoute, ça donne lieu à avoir de la créativité. Il va le faire d'une autre façon. Il est sûr que...
Le travail, c'est la santé.
Il est sûr que pour le Quatuor, il aurait été difficile de garder le masque, donc il reste que la distance.
Oui, on est mieux de se garder sur la distance.
Ça n'aurait pas été très facile. Écoute, il vaut mieux en rire quand même un peu.
Oui.
On passe les dernières minutes qui nous restent sur le volet pédagogique, sur les étudiants. Comment ça se passe pour leur faire des cours ou du moins les initier à la musique contemporaine et puis proposer des choses avec eux? Comment ça se passe là pour l'instant avec le confinement, enfin avec la distanciation, avec tout ça? C'est toujours faisable ou pas?
Comme tantôt je disais, c'est des gens, la plupart c'est des gens qu'on a recrutés dans des universités où on est allé enseigner quand on était de passage. Et donc, ils sont déjà initiés. Parce que quand on joue du saxophone, quand on étudie le saxophone à l'université, ou bien on est en jazz, ou bien on est en musique classique. Mais musique classique pour le saxophone, ça veut dire musique contemporaine automatiquement.
Donc, la musique classique, c'est la même chose que la musique contemporaine?
Ben pour un saxophoniste, oui, parce que c'est l'instrument le plus jeune.
Oui, d'accord, je comprends.
Ils ont le répertoire de Bach, Mozart, puis ils peuvent passer leur vie à jouer du Chopin, s'ils veulent. Mais nous, les saxophonistes, on n'a pas ce répertoire-là.
C'est vrai.
Donc, on est tourné automatiquement vers quelque chose de beaucoup plus moderne. Et puis, c'est un instrument pour lequel on compose énormément de musique présentement. Donc, il y a beaucoup de joueurs aussi. Il y a un engouement encore présentement pour cet instrument-là.
Ah, ben
donc,
oui.
Il y a beaucoup d'activités, puis c'est tout tourné plutôt vers l'avenir que vers le passé, je dirais. Donc, ces étudiants-là sont un petit peu déjà dans le bain-là. Et puis, on leur a tous parlé éventuellement de par Zoom. On a fait des Zooms avec eux. Des fois, ils étaient en groupe 2, 3 dans une université. Ensuite, dans une autre, il a fallu faire ces rencontres-là pour créer le contact ou renforcer le contact. Maintenant, les gens ils avaient l'impression de participer à un projet au bout duquel il y avait des vrais gens qui n'étaient pas des robots.
Oui.
Et puis, ça s'est très, très, très bien passé.
D'accord,
très
bon.
Bien passé. Ouais.
Écoute, alors on va parler pour la dernière minute qui nous reste des billets à prendre, des billets disponibles qui sont donc... à 19$ et en prévente à 10, c'est ça? Est-ce que j'ai les bons prix ou pas?
Ben là, je regarde pas ça souvent, les prix, c'est pas mon département.
Ah ben oui, mais non, mais attends, t'es musicien, comment on m'a dit j'ai trouvé le mot très joli parce que je l'avais jamais employé, idéateur. J'ai trouvé ça très joli.
Oui. Ouais,
idéateur de je ne suis pas un robot. C'est beau ça, dis donc, je m'en resservirai pour quelqu'un d'autre.
C'est ça, ben, je prends pas tout le crédit parce que loin de là, c'est vraiment une expérience qui a été un projet qui a été monté en
groupe
et en collégialité.
D'accord.
Mais il reste que c'est moi qui étais allé voir les personnes en premier et qui a dit hey, j'ai un projet à vous proposer. Puis on fait ça, j'ai réussi à convaincre tout le monde. Moi, sur le document de presse, là, je vois billetterie 10$.
Eh bien, écoute, alors, on arrive à la fin de l'entrevue. Jean-Michel Bouchard, merci beaucoup. Et puis, Jean-Marc, pourquoi je t'ai dit Jean-Michel? Excuse-moi, Jean-Marc. Et puis, on ira voir sur le site du Jésus, puis peut-être Quasar pour rechercher, s'inscrire, prendre les billets et tout le reste. C'est ça?
Oui, sur le site du Vivier.
Du Vivier.
Le vivier.ca, oui, exactement. C'est sur le site du Vivier qu'il faut aller.
Entendu.
Et sinon, sur le site de Quasar, quasar4.com, et de là, on va vous rediriger là où il faut. Donc, Quasar4.com, quasar4.com. On va vous
Merci beaucoup.
Merci,
et puis bonne continuation.
Merci, à
bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère. Je voudrais du Fred Astaire,
boire un latte coé. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver.
Vient d'entendre Voyou qui nous chantait Jardin d'hiver, la belle chanson d'Henri Salvador. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Donc,
ça va tellement vite.
Eh oui, ça va tellement vite. Oh ouais. Qu'est-ce que tu veux ?
Je reviens rapidement sur le cerveau actif là, de oui. Gilles Bergeron, le spécialiste en psychologie cognitive. Les livres là se trouvent en librairie comme en pharmacie aussi.
D'accord.
Dans toutes les librairies, dans toutes les pharmacies, on les trouve là-bas. C'est pas cher, comme disait Maurice. C'est 20 dollars. Hein.
Bon. Ouais, mais pas, eh ben, on peut voilà. le...
Maurice est allé chercher les trucs.
Laisse-moi juste dire au revoir et merci à Jean-Marc Bouchard du groupe Quasar d'avoir été avec nous.
Merci
à vous toutes et vous tous.
Merci
et
Gilles Bergeron. Et puis, merci
Maurice Bolduc.
Merci Arlette. Et
à demain.
Merci Maurice.
Et bye.
Puis prenez soin de vous.